Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio. Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15.
Les effronter.
Avec Geneviève Peterson. Cube Radio.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission. On va être ensemble pour la prochaine heure et demie. Petit changement aujourd'hui, le point de presse qui a lieu à 11h30. Je vous fais rapidement un bilan des principaux sujets discutés. Évidemment, comme à l'habitude, on a reçu un nombre de décès qui est reparti à la hausse légèrement aujourd'hui. Là, hier, c'était très, très bas. Aujourd'hui, 52 nouveaux décès et 239 cas supplémentaires. Ça, on peut voir que pour ce marqueur-là, ça continue toujours à se maintenir en bas de 500. Donc, c'est une bonne nouvelle. Le nombre de décès quand même qui est de 4713 et qui nous porte aussi, en ce qui concerne le nombre de personnes infectées au Québec, à 51 593. Au niveau des annonces principales maintenant, le gouvernement Legault a présenté la nouvelle formation grâce à laquelle il souhaite recruter les 10 000 préposés. Vous savez, les préposés aux bénéficiaires dont le système a grandement besoin pour travailler en CHSLD. Donc, les Québécois qui souhaitent suivre cette formation de 3 mois à compter de la mi-juin seront rémunérés 760 $ par semaine. Donc, vous avez bien compris, là, c'est on vous paie pour aller faire cette formation-là et on sait que ça peut être quand même un incitatif majeur quand on connaît l'image quand même pas très glorieuse qu'a la profession de préposé aux bénéficiaires, non pas parce que c'est pas un métier intéressant, mais depuis le début de cette crise, je pense qu'on aura compris et qu'on aura vraiment pris en compte que c'est un métier qui s'exerce dans des conditions excessivement difficiles. Donc, c'est dur de recruter des personnes et vraiment, je pense que le gouvernement Legault met vraiment la gomme pour réussir à embaucher et à former de nouveaux préposés aux bénéficiaires. Et ces personnes-là, par ailleurs, dès leur embauche en CHSLD, je parle de ceux qui auront fait la formation 3 mois, mais ceux aussi qui arriveront nouvellement sur le marché parce qu'ils auront fait la formation plus classique. Salaire qui passe à 26 $ de l'heure, donc ça assure un revenu annuel d'au moins 49 000, et c'est quand même un revenu qui est plus élevé que la moyenne québécoise. La moyenne québécoise, c'est 43 900. Donc voilà pour les annonces d'aujourd'hui, les annonces principales. Donc un bilan quand même qui se maintient. Une courbe qui continue à descendre. Reste à savoir si avec les mesures de déconfinement, on sera encore au même point d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines. Une chose est certaine, le gouvernement insiste encore et toujours pour qu'on respecte les mesures de distanciation sociale, insiste sur le port du masque, c'est important. J'ai envie de dire que je me promène beaucoup à Montréal ces jours-ci, étant donné la rouverture des commerces, et je vois pas grand monde avec des masques. Très, très honnêtement, là, mis à part à l'épicerie, pas grand monde avec les masques. Est-ce que c'est un manque de volonté? Est-ce que c'est parce que c'est difficile d'obtenir des masques? Par exemple, on sait que Post Canada a des retards monstres en ce moment, qu'il y a différentes compagnies québécoises qui sont vraiment débordées par rapport aux commandes. C'est pas si facile que ça de commander des masques au Québec en ce moment. Donc, j'aurais tendance à penser que c'est pas une mauvaise volonté de la part des Montréalais. Par ailleurs, on me soulignait qu'on a commencé à remettre des masques dans les transports en commun de la ville de Montréal. Donc, c'est une bonne chose. Parlons maintenant. Et là, ayez pas peur, OK? Partez pas. Je vais dire 2 gros mots. OK, mais je vous le jure, là, ça va bien aller. Ça va bien aller pour vrai. Je vais dire racisme systémique. Yeah! Ah, je le sais. C'est épouvantable. Ça fait peur. Et là, on se parle de l'histoire, évidemment, de George Floyd aux États-Unis qui a donné lieu à moult protestations là-bas et ici. On a parlé hier de la manifestation qui avait eu lieu à Montréal. Et dans toute cette discussion autour de la brutalité policière par rapport à certaines communautés, il y a le mot raciste systémique qui revient souvent, le mot privilège blanc aussi. Et je sais que quand on dit ça, ça fait grincer des dents bien des gens. Et souvent, je peux pas en vouloir à ces gens-là de grincer des dents parce que ça part d'une mauvaise compréhension de ce concept-là. Et hier, j'en ai eu comme vraiment une autre preuve. J'écrivais un statut Facebook parce que j'étais un peu mal à l'aise. Je voyais beaucoup de mes amis, beaucoup de personnes dans les médias, des artistes qui avaient leur mot à dire justement sur les manifestations qui se déroulent en ce moment, sur ce qui se passe aux États-Unis, sur le racisme, c'est-à-dire le petit racisme qu'on vit au quotidien, le racisme à plus grande échelle aussi. Et je me disais, bon, mais là, c'est quoi? Il faut-tu que je me prononce, moi, avec? Faut-tu que je dise de quoi? Et bien humblement et très honnêtement, là, c'est pas que j'ai rien à dire, mais je faisais le statut Facebook suivant. Je me disais, écoutez, pour l'instant, là, c'est pas que j'en pense rien, c'est pas que j'ai pas d'opinion sur ce qui se passe, mais pour moi, et c'est vraiment très, très personnel, pour moi, je trouve que c'est un bon moment de me taire, c'est-à-dire d'écouter, de tendre l'oreille, et c'est vraiment comme ça que je me sens. J'ai envie d'écouter ces communautés-là et justement de me demander qu'est-ce qu'on peut faire. Et je disais dans mon statut Facebook que même si j'étais consciente que le racisme systémique au Québec existait, ben, j'allais attendre avant de dire quoi que ce soit. Et là, il y a vraiment des gens qui sont venus interagir et sur Twitter et sur Facebook pour me remettre en cause, si on veut, l'utilisation du racisme systémique, de me dire que c'était exagéré, que le racisme n'était pas un système. Et cette discussion-là autour du mot systémique, ça revient souvent. Puis, j'avais envie d'avoir cette discussion-là avec vous aujourd'hui sans vous faire peur. Je suis pas une experte, OK? Mais je vais vous dire comment je le comprends, moi, la notion de racisme systémique. Quand on dit ça, et vraiment, là, c'est important, on le souligne en crayon triple gras, OK? Souligné en gras, double trait. Quand on dit que du racisme systémique au Québec, on n'est pas en train de dire que les Québécois sont des racistes, OK? On n'est pas en train de dire ça. On n'est pas en train de dire que le racisme est un système et on n'est pas en train de dire que le racisme est érigé en système. Et je sais que quand on utilise racisme systémique, la réaction, c'est souvent de dire « Ah, c'est exagéré, le racisme systémique, là, oui, il y a du racisme au Québec, mais c'est pas du racisme systémique, là, vous capotez. » C'est un peu comme quand on parle, et là, suivez-moi, un autre mot dangereux, c'est un peu comme on parle de culture du viol. C'est un peu la même affaire, les réactions que ça suscite. Puis, c'est facile à comprendre le pourquoi du comment. Là. Ce sont des mots fortement connotés. J'en conviens, là, tu sais, viol, racisme, tu sais, c'est des mots graves, là, c'est des mots chargés, c'est des mots violents. Puis, quand on utilise ces mots-là, puis qu'on les jumelle avec une idée qui sous-entend qu'il y a une tendance sociale, ça a l'air terrible à dire et les gens sont sur la défensive parce que je crois qu'ils ont l'impression qu'on les attaque personnellement. Tu sais, de la même façon que culture du viol n'égale pas tous les hommes sont des violeurs, le racisme systémique n'égale pas toutes les personnes sont racistes. OK? Donc, dire racisme systémique, ça ne veut pas dire vous êtes racistes, les Québécois. Puis je m'inclus là-dedans, là, je dis vous, mais c'est je aussi, là, c'est pas dire ça, tu sais. C'est juste de dire que le système dans lequel on vit, bien, permet qu'on le veuille ou pas, que ça fasse notre affaire ou pas, la discrimination basée sur la couleur de la peau. Puis là, on parle des Noirs depuis quelques jours, mais ça pourrait viser d'autres communautés qui sont victimes de racisme systémique, là, je pense, entre autres, aux communautés autochtones. Et vraiment, juste pour qu'on soit clair, là, parce que je me suis dit, bon, comment on explique rapidement, là, c'est quoi le racisme systémique? Il y a toutes sortes de définitions qui circulent sur Internet. Il y en a sur le site de la Charte des droits et libertés. Donc, vraiment, c'est important de dire qu'on ne parle pas d'une société qui a érigé le racisme en système. On parle des oppressions qui sont subies par les personnes racisées dans différents domaines. Tu sais, je vous donne des exemples. La justice, la santé, l'éducation, l'accès au marché du travail. C'est-à-dire, quand, par exemple, un seul nom, ton nom de famille, là, peut être un obstacle majeur à l'obtention d'un emploi, d'un logement. T'sais, quand on peut dire ça, là, on peut parler de racisme systémique. Donc, si mon voisin m'aime pas, si mon voisin a des préjugés contre moi parce que je suis asiatique, que je suis noire, que je suis amérindien, ça, c'est du racisme individuel. Là. C'est du bon vieux racisme crasse, là, d'ignorance, là, de genre « tous les Italiens sont dans la mafia, hein? » toutes les Asiatiques ont des dépanneurs. Tu sais, ce sont des biais. OK? Ça, c'est du racisme. Mais si ce voisin-là qui est raciste a le pouvoir de me priver de quelque chose d'important, genre, c'est mon propriétaire d'en bas, tu sais, puis qui a le pouvoir de me priver de l'accès au logement, là, on parle de racisme systémique. Et là, ça m'amène à vous parler, hein, d'un autre mot qui fait grincer des dents bien des gens. Le privilège blanc. OK? Là, on se calme. Ça veut pas dire qu'il faut se sentir coupable d'être blanc. OK? Même si c'est quand même tentant, là, parce que moi, je regarde tout ça aller, là. Je regarde tous les témoignages, je lis tout ça, ces médias sociaux, je vois ça à la télé. Hier, il y avait le témoignage vraiment poignant du frère de George Floyd qui a témoigné. Et c'est difficile de pas se sentir comme une merde, tu sais. Mais c'est pas ça. Le privilège blanc, c'est pas de se dire « Oh mon Dieu, je suis blanc, c'est épouvantable, je devrais me sentir coupable à cause de l'esclavage, à cause de toutes les injustices qui ont eu lieu dans le passé. » Ça veut juste dire qu'il faut reconnaître ce privilège-là, c'est-à-dire le privilège d'être blanc dans une société où on est majoritairement blanc. Tu sais, moi, là, je me ferai jamais arrêter en voiture parce qu'on pense que je conduis un char volé. Bon, c'est sûr que le fait que je conduis une Kia Rondo, ça me permet pas de me faire arrêter sous suspicion d'avoir volé. C'est pas une Porsche, là, tu sais. Donc, déjà là, ça m'écarterait. Mais, tu sais, Genèse, mais c'est vrai, là, moi, ça va jamais m'arriver de ne pas me faire rappeler pour un emploi parce que mon nom de famille a une consonance étrangère. Puis ça, là, je l'ai vu, je l'ai vécu. Et là, je vais vous faire une petite confidence. Avant, dans mon ancienne vie, je travaillais dans une agence de publicité et on recrutait des chargés de projet. Puis là, ce que je vais dire, c'est big, là. Quand je checkais les CV puis que je voyais des noms bizarres que je trouvais étrangers, j'ai tassé. Ça, ça en est du racisme. Ça, ça en est un biais. Puis pourtant, si tu m'avais demandé à l'époque, « Mais Geneviève, t'es-tu raciste? Hey, » je t'aurais-tu dit non, toi, chose? Je t'aurais dit, « Hey, t'es malade, je suis pas raciste. » Quand je suis déménagée de Chicoutimi à Montréal quand j'avais 17 ans, quand je croisais un noir sur la rue, je changeais de trottoir parce qu'on m'avait ancré dans ma tête que c'était dangereux, que j'allais me faire voler une limite. Donc, vraiment, tu sais, après ça, qu'on vienne pas me dire que le racisme n'existe pas au Québec et que le racisme systémique n'existe pas, là, je veux dire, il y a des patrons qui m'ont déjà demandé de tasser les CV étrangers. Et par ailleurs, il y a une excellente histoire à cet effet qui est signée par Michael Détrempe. Faites une recherche, allez sur Internet, sur la marque Porte-Monnaie. Il explique comment, quand il travaillait pour un emploi, on lui a carrément dit de pas engager de personnes noires. Donc, ça existe. Et c'est quand même plus répandu qu'on pense. Par ailleurs, il y a une étude qui est sortie pour dire qu'au SPVM, on faisait pas mal de profilage. Ça aussi, c'est facilement disponible sur Internet. Puis quand je dis étude, là, je parle pas de théorie du complot, là. Ce sont des vraies études par des organismes quand même très, très legit. Et là, donc, pour revenir à ce que je disais, non, je me ferai jamais arrêter par la police parce qu'on pense que je conduis un char volé. Je me ferai jamais pas rappeler pour une job. Je n'aurai jamais pas accès à un logement parce que le proprio a un préjugé puis qu'il est en train de penser que dès qu'il va me l'avoir loué, on va débarquer à 25 dedans. Ça va jamais m'arriver. Juste jamais. Il peut m'arriver d'autres injustices. Ben, je suis une femme. Ça, c'est un autre débat. Mais je serai jamais victime de racisme systémique. Mais la vérité, c'est que ça arrive ici au Québec chaque jour. Et la raison pour laquelle je vous parle de tout ça, c'est pas pour qu'on se sente mal, qu'on se sente attaqué, qu'on se sente visé. C'est juste de dire, hey, la gang, on réalise-tu notre privilège? Est-ce qu'on écoute pour une bonne fois, là, ceux qui nous disent être victimes d'injustice sans être toujours sur la défensive? Tu sais, juste reconnaître ce privilège-là, là, c'est assez facile. C'est juste se dire, écoute, c'est difficile pour certaines personnes d'avoir accès à des choses que toi, là, toi chez vous, tu tiens pour acquis. Genre, conduire ton char en paix, te promener sur la rue sans te faire intercepter, avoir un logement, puis avoir une job. Tu sais, des choses très, très basiques de la vie. Juste ça. Juste ça. C'est peut-être le temps qu'on écoute un peu. Maintenant que j'ai dit ça, il y a toutes sortes d'initiatives en ce moment qui sont en train de voir le jour, ces médias sociaux, en soutien justement à la mort de George Floyd et à toutes les émeutes, name it, et les manifestations qui ont eu lieu ici et ailleurs. Puis tu sais, vraiment, cette discussion-là sur le racisme systémique, là, elle a lieu cet après-midi à l'émission, mais elle a lieu partout dans le monde, et ça depuis une bonne secousse, sauf que là, peut-être qu'on a atteint un point de non-retour, et c'est quand même une bonne chose. Et donc, comme d'habitude, quand il y a des mouvements sociaux, les médias comme Instagram, Facebook et tout embarquent, et ça donne lieu à des initiatives qui partent de bonnes intentions, mais qui peuvent parfois, en tout cas, selon moi, être un peu douteuses, voire même un peu ridicules, genre, qui sont pour moi l'équivalent du militantisme de salon, là, tu sais, genre les personnes qui ont un gros VUS, mais qui font un don une fois par année pour sauver la forêt amazonienne, pour se sentir mieux, ce genre d'affaires-là. Et il y a une initiative, entre autres, qui a attiré mon attention, mais qui vraiment qui part d'une bonne base. Là. Ce sont d'ailleurs des personnes afro-américaines qui ont lancé ça en réaction justement à la mort de George Floyd. Donc, ça s'appelle Blackout Tuesday. Et je ne sais pas si vous avez parcouru votre fil Instagram ce matin, mais il y a plein de petits carrés noirs. Donc, vraiment, cette idée de blackout généralisé en soutien à tout ce qui s'est passé, tout ce qui continue de se passer aux États-Unis. En soi, c'est vraiment super. Je le redis, là, c'est un mouvement de solidarité et c'est bien de montrer son appui. Là. C'est le point de départ, selon moi, une discussion sociale réussie. Mais tout le mouvement de récupération qui a vu le jour à côté, c'est peut-être ça que je questionne un peu. Là, des compagnies, des vedettes blanches, t'sais, des vedettes ultra riches, ultra privilégiées, t'sais, qui embarquent là-dedans. T'sais, OK, tu mets un carré noir sur Instagram, mais après, t'sais, qu'est-ce que tu vas faire d'autre? Tu vas-tu faire autre chose. Puis la récupération par les marques aussi, là, est-ce que ça nous surprend vraiment pas? Les marques sont les championnes de la reprise des mouvements sociaux. Il y a Sony qui retardait la sortie d'un produit ou de certains produits par soutien. Je veux dire, on va se le dire, là, les vraies affaires. En ce moment, sortir une nouvelle chose, c'est pas super winner. Il y a l'éclipse, mais ça va, tu vas passer à côté, là. Personne ne va s'intéresser à ton produit. Donc, c'est facile de dire « Ah, on sort pas nos affaires en soutien à ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. » Mais la vraie raison, c'est que ça serait pas super profitable à aucune marque de sortir quoi que ce soit en ce moment. Donc, voilà, on réfléchit à tout ça. On essaie de rester humble et d'arrêter de se sentir attaqué parce que moi, c'est ça que je vois. C'est ça que je vois qui revient. Il y a vraiment des gens qui sont frileux à dire racisme systémique, à adresser le fait que ça existe au Québec, ne veulent pas en entendre parler. Mais vraiment, je pense que ça serait le temps un peu d'ouvrir nos oreilles, de laisser tomber nos œillères. Mais encore faut-il, pour ouvrir nos oreilles, qu'elles ne soient pas bouchées.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Les effronter.
Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Cube Radio.
Il y a un tweet de Catherine Fournier, députée indépendante de Marie-Victorin, qui m'a interpellée, en fait, aujourd'hui, la députée indépendante qui a interpellé le premier ministre François Legault sur le média social à propos de l'importance de modérer ces médias sociaux. Bonjour, Madame Fournier.
Oui, bonjour.
Écoutez, pour ceux peut-être qui n'ont pas vu votre tweet, vous soulignez à M. le premier ministre François Legault à quel point c'est important de modérer en fait les interactions sur les médias sociaux. Là, vous parliez de Facebook, mais évidemment, ça peut être ailleurs aussi. Et vous soulignez que vous aviez invité plutôt cette année les élus à la SNAD de faire la même chose parce qu'il faut être vigilant quant au discours véhiculé sur les plateformes, vous allez même jusqu'à dire que c'est une question de responsabilité. Pourquoi vous avez choisi aujourd'hui pour interpeller le premier ministre à ce sujet?
En fait, petite mise en contexte, j'ai suivi comme tous les jours le point de presse en fait du premier ministre. Et il a été questionné à ce sujet-là en fait par une journaliste du Devoir, donc qui lui demandait pourquoi certains commentaires sur sa page Facebook suite à sa publication à propos de George Floyd avait été manifestement masqué ou supprimé. Et donc, M. Legault a répondu en disant que, bon, il y avait une certaine étiquette à suivre sur les réseaux sociaux quand même et que son équipe pouvait effectivement se permettre de faire une certaine modération lorsque les commentaires dépassaient les bornes, allaient trop loin et tout. Donc, ça m'a beaucoup plu d'entendre ça de la part du premier ministre. Parce que bah, c'est une préoccupation que j'ai depuis un bon moment déjà. Bon, je pense que n'importe qui parcourt un peu les réseaux sociaux peut se rendre compte que le débat parfois dérape et que bon, il y a même certaines tribunes malheureusement qui sont accordées à des gens qui ont parfois, on va le dire, là, des propos carrément racistes. Et j'avais observé un débordement lorsqu'il est venu le temps de célébrer, de souligner l'anniversaire, le triste anniversaire du drame de la tuerie à la mosquée de Québec à la fin du mois de janvier. C'est pour ça que dès le retour à l'Assemblée nationale au mois de février, j'avais voulu déposer une motion en ce sens-là en disant, ben, regardez, nous, les élus de l'Assemblée nationale, on a une tribune, on est suivi par beaucoup de gens sur les réseaux sociaux. On a des équipes, je veux dire, on a des gens qui travaillent avec nous. Donc, il n'y a aucune raison pour laquelle on devrait laisser ce genre de commentaires-là affichés sur nos pages qui encouragent ou qui libèrent peut-être une certaine parole, des gens qui se sentent plus libres d'écrire ce genre de propos qui sont, à mon sens, inacceptables. Donc, oui, comme élu, on a une responsabilité de faire le ménage en modérant, bien sûr, le moins possible, en laissant la place à la liberté de parole, mais en même temps, quand il y a des choses qui sont vraiment inacceptables, qui correspondent vraiment aux définitions du racisme, par exemple, ben c'est la moindre des choses de les retirer.
Ben je trouve que le concept de responsabilité, il est très, très important et c'est une discussion intéressante à avoir aussi au sens plus large, parce que, bon, c'est bien certain que comme personnalité publique, personnalité politique, à mon sens, il y a une responsabilité à avoir sur les contenus qu'on laisse ou qu'on laisse pas sur les pages Facebook publiques de ces personnalités-là. Ça, c'est une chose, mais j'avais la discussion cette semaine par rapport à tout ce qui s'est passé aux États-Unis entre le président Trump et le média social Twitter. On se posait la question, est-ce que les grands géants, justement, ces médias sociaux-là n'ont pas aussi leur part de responsabilité? Parce que en quelque part, et ça vaut pour les personnalités publiques aussi, personnalités politiques, qui ne dit mot consent?
Non, tout à fait. Je suis vraiment d'accord avec vous. Puis d'ailleurs, j'avais posé une question aussi au gouvernement à ce sujet-là, voir s'il comptait faire quelque chose pour un peu forcer la main aux grands géants du web pour qu'ils agissent dans ce genre de cas-là, parce qu'on a vu la France quand même prendre un certain leadership dans le dossier en imposant, en tout cas en démontrant une volonté d'imposer certaines règles à Facebook en ce qui a trait au contrôle des discours haineux. Bon, j'avais une réponse plutôt floue de la part de la ministre responsable de la lutte à l'intimidation à ce moment-là. Il semblait avoir une préoccupation, mais oui, tu sais, c'est une responsabilité, à mon sens, autant qui est partagée par les géants du web, mais du moment où est-ce qu'ils ne prennent peut-être pas cette responsabilité-là, je pense que ceux qui sont justement des créateurs de contenu ou ceux qui vont publier justement sur les réseaux sociaux et qui ont une audience assez large, quoique ça commence par les petits gestes aussi, ben ça devient encore plus important d'être vigilant par rapport à ce genre de discours-là.
Mais il y a quand même une question qui est souvent soulevée, c'est celle de la censure. Plusieurs personnes trouvent que modérer des commentaires, effacer des commentaires, bannir des gens de des pages médias, par exemple, ou de des comptes publics de personnalités, ben c'est de la censure.
C'est pour ça qu'il faut avoir des règles claires. Je veux dire, je pense qu'on est tous capables de faire la différence entre un commentaire qui soulève une opinion qui peut être mesurée, qui peut être débattu, et un commentaire qui tombe dans les insultes, le discours haineux, le racisme. Je veux dire, il y a des définitions qui existent pour ce genre de choses-là. Donc, je pense qu'il faut qu'on s'y rapporte et je pense que d'avoir une étiquette sur les réseaux sociaux, en fait, c'est la moindre des choses, parce que bon, la liberté s'arrête là où celle de l'autre commence, là, comme le dit-on, le dit si bien. Puis je pense que ça aussi, c'est important à un moment donné. Il y a une limite à la liberté d'expression quand on met en danger par nos propos certains groupes de personnes ou qu'on pointe du doigt de façon délibérée
systématique aussi.
Un discours raciste ou sexiste ou peu importe, quand ça rentre dans la catégorie des discours haineux, pour moi, c'est pas ça la liberté d'expression dans une société saine.
Mais c'est juste moi ou en ce moment, je sais pas, là, c'est peut-être juste une impression, Mme Fourmi, vous êtes aussi présente beaucoup sur les médias sociaux, donc j'ai envie de savoir c'est quoi votre impression à vous là-dessus, là, mais avec la pandémie, j'ai comme un feeling que les gens sont comme plus intenses sur les médias sociaux. On dirait que ça a comme exacerbé la haine.
Oui, ben vous avez raison. Dans un sens, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui subissent un stress supplémentaire depuis le début de la pandémie, que ce soit parce qu'ils ont perdu leur emploi, ce soit en raison des différentes mesures de confinement, c'est que c'est pas nécessairement facile pour la santé mentale. Puis à ce moment-là, j'ai l'impression que les réseaux sociaux peuvent devenir une espèce d'exutoire. Puis déjà que c'est facile justement d'avoir une polarisation, disons, des opinions sur les réseaux sociaux, parce que bon, on sait qu'on est comme un peu limité à nos bulles idéologiques sur les différentes plateformes avec les algorithmes et tout. Je pense qu'effectivement, ça rajoute de l'huile sur le feu peut-être là, des réseaux sociaux.
Oui, puis en même temps, il n'y a rien à faire. Tu sais, on dirait, en tout cas, moi, je reçois beaucoup plus de messages haineux, de messages violents, de messages à connotation sexuelle depuis le début de la pandémie. Est-ce que ça vient avec le fait que je me prononce dans des chroniques? Peut-être, mais j'ai vraiment remarqué une hausse. Puis vraiment, là, je suis allée revoir des messages et tout. Puis vraiment, on peut attribuer ça, en tout cas, selon moi, au confinement. Mais j'en ai tellement reçu qu'à un moment donné, je me suis tannée cette semaine. Puis j'ai fait un tweet. J'ai dit que ma nouvelle politique éditoriale sur les médias sociaux, ça allait être de publier le nom et les messages des personnes qui allaient m'envoyer des commentaires racistes, sexistes, violents. Puis là, je fais une précision, là, je ne vais pas publier les commentaires des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais en même temps, on dirait qu'on en vient à faire ça parce qu'on ne sait plus quoi faire, parce que concrètement, il n'y a rien à faire contre toute la violence qu'on reçoit dans nos boîtes courriel quand ce n'est pas des menaces directes de mort ou du harcèlement criminel. Parce qu'il y a tout un monde entre les deux, là.
Ben voilà, je pense que vous venez de faire la distinction qui s'impose. Tantôt, quand je parlais de discours haineux, c'est pas de censurer les gens qui sont pas d'accord avec nous, bien au contraire. Mais à un moment donné, ça dépasse certaines limites. Puis à ce moment-là, on doit pas se gêner pour le dénoncer. Comme vous le faites, j'ai vu ça passer d'ailleurs sur Twitter. Puis je pense que c'est une bonne idée. Ça peut sensibiliser certaines personnes en renvoyant une espèce de miroir. Parce que, bon, j'ai peut-être... j'espère que c'est pas de la naïveté, mais j'ai l'impression que parfois certaines personnes se rendent pas compte, en fait, de la gravité des paroles qu'ils expriment comme ça en public sur les réseaux sociaux. Donc, peut-être que ça peut contribuer à créer un climat d'introspection.
En même temps, tu veux pas...
Les gens vont tourner peut-être cette fois leurs doigts sur leur clavier.
Mais en même temps, la raison pour laquelle je le faisais pas avant, c'est que je me disais, je veux pas dénoncer l'intimidation par l'intimidation, parce que moi, je le sais qu'au nombre de personnes qui me suivent, ces gens-là vont recevoir des messages pas le fun. Donc, c'est un... Tu sais, c'est comme pas la solution idéale, tu sais.
Non, c'est vraiment un service. Vous avez raison, tu sais, c'est ça le problème. C'est que des fois, quand on veut défendre quelqu'un, après ça, bon, on peut être maladroit puis utiliser un peu les mêmes tactiques que ce qu'on a dénoncé au final. Tu sais, c'est ça qui est dommage. Je sais pas si c'est la bonne solution. J'espère qu'un jour on va réussir à avoir un dialogue vraiment plus sain sur les réseaux sociaux. Tu sais, je pense que ça passe beaucoup par l'éducation. Tu sais, je sais que c'est quelque chose, une solution peut-être à long terme, mais en même temps, je vois mal qu'est-ce qui pourrait donner de meilleurs résultats qu'une meilleure sensibilisation puis une éducation au plus jeune âge à l'utilisation de ces plateformes-là.
Madame Fournier, on le sait, là, ceux qui font des commentaires pas le fun, qui incitent à la haine sur les médias sociaux, souvent s'attaquent à certains groupes en particulier. Là, dès qu'on parle de féminisme, dès que justement il y a des sujets qui sont liés au racisme, à la politique, ça devient souvent une cible. Est-ce que vous, en tant que politicienne femme, vous avez à composer avec beaucoup de commentaires haineux, de commentaires sexuels, voire même violents?
Oui, tout à fait. Moi, j'ai même déjà dénoncé à la police, puis je me gêne pas pour le dire. J'ai déjà appelé la police de Longueuil, j'ai déjà parlé à la SQ par rapport à certains commentaires, des choses qui allaient vraiment trop loin. J'ai même fait des plaintes, tout ça. Puis, tu sais, j'invite les gens qui nous écoutent, qui vivent ce genre de situation-là aussi à pas se gêner. Parfois, ça va trop loin, puis il faut qu'on dénonce ce genre de situation-là, sans quoi ça va continuer, puis que ces personnes-là vont continuer d'agir en toute impunité.
On se fait toujours dire ignore-les, bloque-les, mais c'est pas ça. Ça marche pas, ça.
Non, c'est ça. Ben, des fois, ça dépend de la gravité ou de l'ampleur de la chose. Moi, je me gêne pas non plus pour bloquer quand je trouve que c'est trop. En même temps, c'est un peu dommage parce que je me dis, bon, quand je bloque, il va juste aller peut-être harceler quelqu'un d'autre que moi. Donc, c'est sûr que c'est pas la solution. Mais tu sais, c'est difficile en même temps parce que, bon, des fois, ça dépasse clairement la ligne. On sait qu'on peut dénoncer à la police, par exemple. Mais parfois, ça reste dans un espèce de flou. Puis on
sait c'est un flou.
C'est plus difficile parce qu'on dit, ben, t'sais, c'est peut-être pas assez justement pour dénoncer puis qu'il y ait vraiment une suite genre judiciaire ou policière. En même temps, de l'autre côté, t'sais, ça encourage ce genre de comportement-là. S'il n'y a pas une action qui est posée, t'sais, c'est, c'est dur des fois de naviguer là-dedans. Puis tu sais, je pense que moi, bien sûr, j'ai plein d'histoires, mais tu sais, c'est de l'anecdotique. Sauf que quand tu vois l'ensemble,
mais quand tu mets une à côté de l'autre,
ben voilà, tu sais, le portrait de tout ce que subissent certains groupes minorisés dans la société, tu sais, de façon plus ciblée sur les réseaux sociaux, ou un groupe qui n'est pas minorisé, celui des femmes qui représente la moitié de la population, puis particulièrement les femmes qui sont des personnalités publiques, parce que nécessairement on a une audience qui est plus grande, ben ça devient très préoccupant. Puis c'est ça qui montre qu'il faut absolument qu'on fasse quelque chose contre ça là, au niveau de la société.
Très bien. C'est important de modérer, c'est ce que j'en comprends, mais c'est important surtout de se modérer. Modérer nos transports sur les médias sociaux. Des fois, aller prendre une petite marche avant de tweeter des affaires qu'on pourrait regretter quelques minutes, voire même le lendemain. Catherine Fournier, merci, députée indépendante. Merci, c'était une discussion super intéressante. Bonne journée.
Merci à vous aussi.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, ici. Très loin là-bas.
Ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Les effrontés.
Avec Geneviève Petersen. Les vrais enjeux, les vraies questions. Vous écoutez
Les effrontés.
Et là, on se reparle du dossier des écoles. Je ne sais pas si vous êtes comme moi et comme bien des parents, mais on est mêlés. C'est compliqué. Beaucoup de décisions se prennent rapidement. On apprend tout ça à la voix comme je te pousse. Et là, les enfants en difficulté. Hein, on se rappelle qu'à la base, on avait discuté de rouvrir les écoles pour eux, pour les enfants en difficulté. Certains de ces enfants-là pourront finalement revenir à l'école, mais plusieurs parents, plusieurs directions d'école, plusieurs profs, même s'ils sont apeurés de venir parler, on les comprend, ont des réserves quant à l'implantation de ce retour qui a été annoncé vendredi par le ministre de l'Éducation, Jean-François Robert. J'en parle tout de suite avec Bianca Nguyen, présidente de la Coalition de parents d'enfants en besoin particulier du Québec. Madame Nguyen, bonjour.
Oui, bonjour.
Bon, premièrement, là, juste pour qu'on comprenne bien, on parle de camp pédagogique. C'est quoi ça, un camp pédagogique?
Ben, écoutez, c'est une très bonne question.
Peut-être que vous n'avez même pas la réponse.
Je vais parler de ça. Oui. Écoutez, nous, dès le 25 mars, on avait envoyé un courriel au ministre de l'Éducation, au ministre de la Famille et à la ministre McCann du Service social et de santé pour les enjoindre vraiment là, à réfléchir rapidement à mettre sur pied un plan tripartite parce que justement, comme vous l'avez nommé en introduction, ces écoles-là auraient jamais dû fermer pour les élèves à besoins particuliers. Parce que si on avait vraiment considéré que c'était des élèves qui avaient des grands besoins d'encadrement au niveau pédagogique, que c'était des élèves à risque de décrochage scolaire, si on était vraiment conséquent avec toutes les études et tous les résultats, on serait pas en train de parler là de l'improvisation de l'annonce qui a été faite vendredi dernier. Comme vous l'avez dit, à la voix je te pousse, complètement inattendu, improvisé, que les premiers concernés, qui sont les parents et les enseignants et les écoles, ne sont même pas tenus informés en amont que ça fait partie du plan.
Mais c'est ça qui me surprend quand je vous écoute, Madame Nguyen, puis quand je lis aussi les commentaires sur les différents groupes de parents dont je fais partie sur Facebook. Vous venez de me dire que vous avez envoyé, que vous avez interpellé en fait le ministre au mois de mars. On est rendu le 2 juin. Là, on vous arrive avec ça. Il y avait une communication entre les parents, les différentes associations et le ministère. Et là, ce que je peux comprendre, c'est que vraiment, les gens sont en beau fusil d'avoir appris cette nouvelle-là en même temps que tout le monde.
Bien, c'est c'est certain que, tu sais, apprendre, nous, on a aussi des enseignants. Je vous rappelle que la coalition, c'est un rassemblement de voix, d'experts par expérience, et on a aussi des enseignants membres. On a des enseignants sur notre conseil d'administration. Je suis moi-même aussi professeure au collège et à l'université. Alors, honnêtement, c'est pas surprenant quand finalement on manque de vision puis on manque de leadership. Faut pas se le cacher. C'est quelque chose qui est flagrant en ce moment en éducation. Évidemment, revenons à ces camps-là. Ces camps-là, on a relancé aussi le 20 mai dernier une deuxième missive auprès de tous les députés de la Commission culture et communication parce qu'il y avait un retour en commission parlementaire. Alors, on a préparé une infographie sur les quatre grandes priorités qui était finalement un résumé de l'ensemble des sondages éclairs, des sondages internes maison qu'on a fait, puis aussi des rétroactions qu'on recevait de nos membres puis nos alliés pour lancer quatre grandes priorités. Puis, dans une de ces priorités-là, on demandait effectivement des classes d'été. Alors, pour nous, c'est ce qu'on s'attendait. On s'attendait qu'il y ait une annonce pour dire qu'il était pour avoir des camps. Alors, c'est certain qu'on comprend que c'est surprenant, mais ce qu'on comprend mal, c'est que c'est laissé de manière aléatoire puis arbitraire à la bonne décision de l'organisation des commissions scolaires. Et on leur met toute la pression pour organiser ça, sans nécessairement les avoir avertis et sans aussi avoir tenu au courant les enseignants qui seraient amenés à offrir ces camps-là pédagogiques. Oui, et là, on parle de 3 semaines, mais on parle aussi de camps, on parle aussi de répit pendant l'été en coordination avec les services sociaux, mais on n'a aucun détail. Puis on est à 3 semaines de la fin du calendrier
scolaire.
C'est
ça, qui va décider, quels élèves vont pouvoir avoir accès à ces camps-là et comment on va déterminer qui est en difficulté, quelles difficultés sont admissibles, c'est qui?
Bien, ça, c'est déjà inscrit dans la loi sur l'instruction publique. C'est que malheureusement, il n'y a pas grand monde qui la comprend parce qu'elle n'est pas très claire, en fait. C'est pour ça qu'on a dû développer une politique d'éducation nationale en 2018 parce qu'on n'avait aucune politique qui encadrait cette loi-là. Mais ceux qui connaissent un peu la gouvernance scolaire savent très bien qu'en gouvernance scolaire, il y a ce qu'on appelle la subsidiarité des pouvoirs. Le ministre n'a pas le choix de laisser les commissaires décider parce que dans la loi sur l'instruction publique, il n'y a pas le droit de décider. Alors, c'est ça que les gens réalisent pas, c'est que il y a des droits et des privilèges qui étaient de l'ordre des commissaires. Là, ben, il a aboli ce niveau-là pour pouvoir rapprocher les pouvoirs des écoles, mais sans nécessairement leur donner les conditions et les outils nécessaires pour les appliquer.
Oui, ils sont dans un entre-deux qui tombe plutôt mal en ce moment, là.
Ben exactement. Alors, on aurait-tu eu besoin de nos élus scolaires en ce moment pour justement nous représenter puis faire entendre nos voix? Ça a comme vraiment ben à donner mal la pandémie puis pas avoir de représentation pour pouvoir faire entendre nos voix. En tout cas, c'est un autre sujet, mais tout ça pour dire que en ce moment, c'est pas surprenant que le ministre lance des prescriptions ou des recommandations, comme dans sa lettre qui dit « Je suis heureux de vous confirmer qu'à partir du 1er juin 2020, de nouvelles mesures destinées aux élèves de la formation générale des jeunes et des adultes qui présentent des besoins particuliers seront autorisés. 3 semaines et demie après, pratiquement, non, en fait, 2 mois et demi après le début de la pandémie, c'est là qu'ils réalisent qu'il y a des formations, des services d'enseignement d'intégration sociale de formation aux adultes. C'est là qu'ils réalisent qu'il y a des élèves qui sont inscrits à des services d'enseignement socio-professionnel, des formations semi-spécialisées. C'est là qu'ils réalisent qu'il y a des élèves au préscolaire, au primaire et au secondaire handicapés ou qui ont des troubles de graves de comportement qui ont besoin d'avoir un encadrement spécialisé.
Ben c'est ça, je veux qu'on en parle concrètement là, parce que tu sais moi j'ai le privilège d'avoir des enfants qui sont pas en difficulté, donc j'ai de la misère à me figurer qu'est-ce que ça peut être une journée par exemple dans votre vie là, parce que je suis dépassée par une chose aussi simple que la trousse du ministère là, puis on s'entend là.
Les courriels qu'on reçoit de nos trois enfants, quand on a des enfants secondaires puis qu'on a des enfants primaires.
Puis j'ose même pas m'imaginer ce que ça serait si j'avais des enfants en difficulté. Puis c'est un peu tabou de dire que les parents d'enfants en difficulté ont besoin d'un répit, mais c'est quand même ça pareil, c'est vrai.
Bien, c'est certain que je peux vous dire qu'en ce moment, sur les réseaux sociaux, ça ventile.
C'est bien.
Il y a des parents, c'est bien, mais il y a des parents qui, ça fait longtemps là, qui sont en surcharge.
Il était avant la pandémie, c'est ça qu'on se dit, là.
Effectivement, puis on s'entend que être sur une liste d'attente pour recevoir des services au niveau des services sociaux ou de santé, parce que l'école n'en donne pas, parce que ils nous disent que ben nos enfants sont éligibles à recevoir au public, alors ils vont consacrer ces ressources-là pour les élèves qui n'en reçoivent pas. Alors à quoi ça ressemble les journées? Ben ça ressemble au fait que malheureusement on a de la difficulté à encadrer nos enfants au niveau de les mettre en action parce que souvent on n'a pas reçu le portable. Il y a encore des familles qui n'ont pas reçu le portable.
Partez-moi pas ça sous le dossier des portables.
Exactement. Il y en a aussi qui n'ont aucune espèce de mandat des parents.
On est le 2 juin, hein? Je veux juste qu'on se relève.
Ben oui, 2 exactement. Okay. C'est ça. De s'encadrer, il y a des parents. Nous, on a demandé dans nos priorités de donner des soutiens aux parents pour encadrer leur enfant avec les outils technologiques qu'ils
ont. En avez-vous?
Ben non, c'est pas quelque chose qui est connu. Il y a certaines commissions scolaires qui sont très, très proactives. Il y a certains enseignants, effectivement, qui sont très compréhensifs, qui ont envoyé des documents complémentaires pour soutenir les parents à comprendre comment que ça fonctionne, les outils. Mais on s'entend que on n'est pas enseignant. C'est pas notre et on n'est pas éducateur spécialisé et on n'est pas travailleur social. Mais on n'est pas.
Ça, c'est tellement intéressant, cette nuance-là. Puis ça passe souvent mal quand les parents disent on n'est pas enseignant. Mais c'est vrai, tu sais, être un parent, c'est une chose. Enseigner à son enfant des matières, c'est un baccalauréat, c'est pas pour rien, là. Je veux dire, c'est un vrai travail, c'est un métier.
Et c'est des stages.
Puis ça a changé, là, depuis notre temps, là. Il y a eu 1800 réformes. Donc, moi, je me sens pas apte à expliquer les maths à mon enfant.
Et ça, c'est juste au niveau pédagogique. Mais nous, on a vraiment des besoins psychosociaux aussi. Oui. Là. Nos enfants font des crises, nos enfants se désorganisent, nos enfants, je vous donne un portrait de ceux qui ont les plus grands besoins. Évidemment qu'il y a des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, mais sur le plan comportemental, ça va mieux. Il y a pour qui des familles, que certains enfants, en fait, ils se sentent en sécurité d'être à la maison, mais ce qui manque, c'est le temps aux parents. On travaille.
On
doit faire des suivis et puis il y a certains parents à un moment donné ils disent on a demandé une bonification de 300$ au crédit d'impôt pour enfants handicapés parce que le portable là ben des fois là, on en a juste un puis l'école donne juste un mais des fois on a 3 enfants puis l'enfant primaire ben il a tu sais rendu au 5e-6e année mais des fois il fait des travaux sur un ordinateur on a besoin d'avoir un soutien financier aussi. Là, on n'a aucune espèce d'idée aussi de ce qui va arriver avec ces
La vérité, c'est qu'il y a des parents qui vont arrêter de travailler pour s'occuper de leurs enfants.
C'est un phénomène, ça. Il y a des études là-dessus. Moi-même, je suis chercheure en sciences sociales qui prouvent que, effectivement, les parents d'enfants, notamment les parents d'enfants autistes, une étude récente à l'Université de Concordia, il y a 2 ans, 75% de ces parents-là vivent du stress.
Et puis les séparations, ça doit être tellement être tough sur le couple.
De 50 à 75% de séparation. En fait, il y a une 50, ça, c'est tout le monde qui est visé par ça, mais nous, ça peut monter jusqu'à 75%. Alors, effectivement, il y a beaucoup d'adaptation en si peu de temps. Alors, il y a certains parents qui disent, écoutez, nous, ça ne vaut pas la peine pour 3 semaines. Là.
Oui, nos parce enfants, que ce ne sera pas obligatoire, il faut le souligner.
Bien sûr, on sait pas parce que les ministres ne peuvent pas le rendre obligatoire parce qu'il n'y a pas le pouvoir. Parce qu'il y a des mesures sanitaires en ce moment, puis malheureusement, dans ces contextes-là, il n'y a pas le pouvoir de rendre ces prescriptions obligatoires.
Allez-vous l'utiliser, ce service-là, Mme Nodjan?
Ben, écoutez, moi, c'est un autre enjeu. Moi, malheureusement, il y a aussi des enjeux de garde partagée. Hein, aussi.
Oh oui, ça s'ajoute.
Imaginez la
bien
garde
sûr.
Partagée, puis les conflits, les dilemmes qui arrivent, à savoir qu'une famille veut envoyer leur enfant, puis l'autre ne veut pas. Alors, il y a plusieurs parents qui nous partagent cette réalité-là. Moi, de mon côté, j'ai demandé un retour. Là, on vient d'avoir une confirmation d'une possibilité d'un camp spécialisé pour 3 semaines seulement pendant l'été. Qu'est-ce qu'on va faire pour le reste des semaines?
Je vais vous souhaiter la meilleure des chances, Mme Bianca Nugent, présidente de la Coalition de parents d'enfants à besoins particuliers du Québec. Merci.
Au plaisir.
Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
Un autre casse-tête, c'est celui des services de garde. On le sait, c'est rouvert dans la grande majorité du Québec et ça se passe quand même pas si facilement que ça. C'est pas évident si je me fie à ce que je lis un peu partout. Je parle avec Valérie Grenon, présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec. Madame Grenon, bonjour.
Bonjour.
Bon, vous avez réouvert, évidemment, on avait discuté plus tôt cette saison de tous les défis auxquels vous devriez faire face. Là, on est rendu là. Il y a toutes sortes de nouvelles mesures de distanciation, des principes d'hygiène stricts qui doivent être respectés. Qu'est-ce qu'on vous demande exactement et comment ça se passe?
Ben c'est sûr que premièrement, je veux quand même dire que toutes les intervenantes étaient quand même très contentes de revoir leurs amis, de recôtoyer les parents. Là, on est très proche des familles qu'on côtoie, donc ce bout-là, là, c'est quand même positif. Mais c'est sûr que avec la propagation de la COVID-19, il y a d'énormes mesures d'hygiène qui ont été mises en place. Si on regarde ce qui est la désinfection, oui, des locaux, mais des jouets, de tout le matériel que les enfants peuvent utiliser. Donc, malgré qu'on est en baisse de ratio, ça apporte beaucoup une surcharge de travail supplémentaire. Parce que oui, nos milieux étaient habituellement très, très propres. Là, on fait attention, beaucoup, beaucoup de désinfection. Mais là, vous comprendrez là, que c'est une surcharge de plus supplémentaire. Puis cette désinfection-là ne peut pas se faire en présence enfants. Donc, c'est en dehors là, que les enfants soient présents.
Mais qui l'a fait? Ce sont les éducatrices ou c'est du personnel que vous engagez spécifiquement pour ça?
Ben normalement, c'est les éducatrices. Certains CPE ont des préposés, mais c'est très rare. Mmh. Et bien sûr, pour les responsables en milieu familial, c'est elles-mêmes qui font ce travail-là là, en dehors de leurs heures d'ouverture. Donc, c'est sûr que c'est des tâches supplémentaires. De là qu'on est quand même content pour la sécurité de tous, que ce soit à ratio diminué. Mmh. Mais il va falloir trouver des solutions à long terme, parce qu'on ne sait pas quand la COVID va quitter. Hein?
C'est ça, Mme Grenon. Moi, ce que j'ai envie de savoir pour vrai, là, parce que c'est une chose de suggérer des mesures puis d'en imposer, mais vous êtes sur le terrain. Puis la réalité du terrain, c'est quoi? Est-ce que vous diriez que les mesures qui sont proposées par la santé publique en ce moment, puis là, je dis proposer, mais c'est plus imposé, là, est-ce qu'elles sont concrètement praticables?
Bien, j'ai deux exemples pour vous. Si on regarde la distanciation de 2 mètres, c'est quasi impossible. On parle des 0-5 ans. Donc, oui, il y a des moments de vie dans la journée que c'est possible. Il y en a 2 environ. Pour la détente, donc tout dépendant si le local ou la résidence est quand même grande, on est capable d'essayer de distancier les enfants. Par contre, ça peut être plus complexe, là, tout dépendant de la grandeur du local. Et lors des repas, on est capable de faire attention là, si
mais
on
les
a
bébés,
le matériel nécessaire.
Les bébés, mettons, vous n'êtes pas pour les tenir avec des pinces à four à 2 mètres. Là, je veux dire, comment vous les prenez? Comment ça marche?
Ben c'est clair qu'il n'y en a pas de distanciation. On essaie à des moments précis. Ça, c'est clair, il n'y en a pas. Puis, tu sais, tous les médecins, ils disent, c'est même pas bon pour l'enfant. Il a besoin de contact social. Donc, c'est sûr qu'on essaie le plus possible de faire comprendre aux enfants dès qu'ils ont l'âge un peu plus de comprendre, 3-4 ans. Mais même là, c'est difficile. Mais on
essaie. Qu'est-ce que vous faites? Mais... vous avez des masques puis des visières quand c'est pas possible? Par exemple, si vous avez à prendre justement des poupons qui ont 9-10 mois, là?
Oui, mais ça, c'est ça l'autre problématique qu'on vit. C'est sûr que la CNSST et l'INSPQ ont mis obligatoire le port de masques et de visières.
En tout temps? Ou...
En tout temps. Oui. Nous, on souhaitait qu'il soit seulement recommandé pour lors de moments précis, un changement de couche, on aide un enfant à attacher ses souliers. C'est sûr que ça peut être plus complexe, ou un enfant qui aurait certains symptômes, le temps que le parent vienne le chercher pour protéger l'intervenant. Là, on fait face à des intervenantes qui portent le masque et la visière toute la journée, que ce soit en milieu familial ou en CPE. Et vous comprendrez qu'avec les chaleurs de la semaine passée, il y a eu des nausées et des étourdissements, là, parce que ça devient vraiment... je sais pas si vous avez déjà porté un masque toute une journée, là, mais...
Le max que j'ai fait, c'est 4 heures, puis j'ai trouvé ça difficile, puis j'avais pas de visière par-dessus, donc j'ose pas imaginer ce que vous devez endurer. Donc, ce que je comprends, Mme Grenon, c'est que vous faites votre gros possible, mais que c'est pas tout le temps possible. Je veux dire, si un petit garçon se pète le genou en sang ou une petite fille... peut-être pas le temps de mettre la visière ou vous allez y aller, là.
Ah non, ça c'est clair. Ça c'est clair. Pour nous, c'est la santé et sécurité des enfants premier, mais c'est aussi on n'est pas des gardiennes, hein, on a des plans d'intervention à faire, on a un programme éducatif. Donc c'est important le lien d'attachement, surtout avec l'enfant. Mm. Donc ça, c'est je veux rassurer tous les parents du Québec, là, il n'y a aucune intervenante qui va s'empêcher de coller même un enfant qui a de la peine, ça, soyez assurés de ça.
Comment ils réagissent, les enfants? À ça?
Ben, ça va mieux qu'on pense. C'est sûr que pour les bébés, c'est plus difficile. T'sais. Ils essaient de reconnaître un peu leur intervenante avec leur visière et leur masque. Il y en a qui ont trouvé ça très drôle, là, des petits gars. Ah, t'es déguisé, c'est-tu l'Halloween aujourd'hui? Mais c'est s'approprier le matériel, mais c'est de là qu'on veut qu'il soit juste recommandé. Parce qu'on se rappellera qu'on est là aussi pour la stimulation du langage. Puis ça devient complexe, là, stimuler le langage avec un masque qui cache notre bouche, hein. L'enfant apprend beaucoup à comment mon intervenante place sa langue ou place sa bouche pour dire tel mot. Donc, c'est sûr que c'est une adaptation, mais c'est sûr que nous, là, on ne pourra pas continuer longtemps comme ça. Donc, on demande à ce qu'il y ait des moments que, oui, on doive le mettre pour se protéger, mais en même temps, il y a des moments que c'est impensable de... On
peut pas. Donc, vous demandez un retour en arrière.
Ben, on demande, nous, on a toujours demandé que ça soit juste disponible pour des moments précis. Et là, c'est sûr que là, nous, la CNSST a recommandé que ça soit obligatoire. C'est plus recommandé, c'est obligatoire.
Ouais.
Donc, nous, on essaie là de faire des revendications. Même encore aujourd'hui, là, on a envoyé une communication à la CNSST pour essayer de mettre de la souplesse dans ce dossier-là. Mais bien sûr, ceux des intervenantes qui voudraient le mettre à tous les jours, tout le temps, parce que ils ont
parce
besoin
que
de ça.
Peut-être qu'il y a des éducatrices ou des éducateurs qui ont des craintes, puis ça, c'est légitime.
Oui, tout à fait. Ben nous, on veut pas qu'il n'y ait plus accès au matériel, parce qu'il y en a qui vont vouloir le porter tout le temps, parce qu'ils ont peur pour leur sécurité, puis c'est tout à fait légitime, comme vous venez de le dire. Donc, nous, on veut quand même qu'il y ait une certaine souplesse, mais ceux qui veulent le porter puissent le faire et que le ministère continue à fournir le matériel.
Puis du côté des parents, comment ça se passe? Est-ce qu'ils sont collaboratifs, les parents? Est-ce qu'ils ont peur? C'est quoi le feeling général?
Ben ça va quand même très bien pour les parents. C'est sûr que le parent vit plus une frustration, puis on le comprend.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Au niveau qu'il n'y a pas sa place, tu sais, parce que les ratios sont diminués, donc il y a certains parents qui auraient besoin de la place et ils ne l'ont pas.
C'est plus en dehors de Montréal, ça, parce que la situation est quand même assez différente. Là, ce que je lisais, et corrigez-moi si je me trompe, Madame Grenon, c'est qu'à Montréal, il y a beaucoup de d'enfants qui ne sont pas de retour. Plusieurs parents se sont décidés à la dernière minute, alors qu'en dehors de la CMM, on manque de place. Là. C'est à ça que vous faites référence.
Oui, tout à fait. Puis, c'est sûr que dans le Grand Montréal, tout a débuté hier. Oui. C'est sûr que certains parents qui vont attendre de voir comment leur intervenante, que ce soit en CPE ou en milieu familial, va interagir avec les enfants, ça va être quoi les mesures. Peut-être que quand tous les parents vont retourner au travail comme on le vit ailleurs dans le Grand Québec, ça va être différent. Mais les parents comprennent.
Oui.
Puis je pense que toute la société au Québec, maintenant, sait qu'on a des mesures de protection à faire. C'est pour leur santé à eux puis de leurs enfants. Donc, ça se passe quand même bien là à ce niveau-là.
Mais là, tantôt, Mme Grenon, vous me parliez des ratios, vous me parliez des nouvelles mesures de désinfection, c'est-à-dire plus de travail pour les éducatrices, peut-être même l'embauche de personnel supplémentaire et, bon, évidemment, moins d'enfants. Là, plusieurs garderies ont appris qu'ils ne seraient pas payés pour les places non comblées. Donc ça va être un énorme manque à gagner.
Ah, c'est énorme. Puis je pensais jamais qu'on vivrait ce problème-là.
Mais moi non plus, je payais mon éducatrice quand elle partait en vacances, donc pour pas qu'elle manque d'argent. Donc je comprends pas en ce moment qu'est-ce qu'on essaie de faire.
Ben nous, le ministre de la Famille s'est lui-même prononcé lors de plusieurs rencontres, nous disant qu'il y aurait aucune perte de subvention.
Yep,
donc, ben c'est ça. Fait que là, on attend une instruction du ministère de la Famille. On a eu une rencontre ce matin pour essayer d'éclaircir les choses, parce que là, on l'a vécu en zone froide. Il y a eu des responsables en milieu familial qui n'ont pas eu leur pleine subvention. Par contre, ils ont tout fait ce que le ministère de la Famille leur ont dit. Ils ont ouvert seulement à 3 enfants. Ils ont respecté les ratios. Puis là, ils ont une perte de revenus parce qu'ils ont respecté les ratios.
Puis ça veut dire quoi, pas pleine subvention? Ça veut dire qu'il y a des services de garde qui vont fermer?
Ben ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ou les responsables vont dire, ben moi, j'écoute plus le ratio. J'ouvre à plein. Je peux pas me permettre d'avoir la moitié de mon salaire en moins. Puis je fais quand même le travail. Puis je répète que même si les ratios sont bas, il y a encore plus de travail à faire à cause de la désinfection. Donc, nous, c'est de là qu'on travaille fort en ce moment, encore avec la rencontre de ce matin, pour que ce que le ministre de la Famille a dit lors de plusieurs points de presse, mais pas de points de presse, mais même à l'allocution Facebook qu'il a fait ou lors de rencontres qu'on a eues politiques avec lui, ben, il faut qu'on l'ait sur papier. Donc, mais qu'on l'ait sur papier, ben, tout le monde va pouvoir avoir son pleine rémunération puis avoir le goût de maintenir leur service ouvert et qu'on revienne à 100%.
Ben, j'aimerais, je serais bien curieuse d'avoir le commentaire de M. Lacombe, qui est ministre de la Famille, à cet effet, pourquoi être allé à l'encontre de ce qu'il a affirmé en point de presse? C'est une question qu'on pourrait peut-être lui poser s'il acceptait notre invitation. Madame Valérie Grenon, merci, présidente de la Fédération des intervenants en petite enfance du Québec. On va vous souhaiter bonne chance et j'ai envie de vous dire merci au nom de tous les parents du Québec. On a besoin de vous plus que jamais. Merci.
Merci à vous.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
C'est hier qu'annonçait le plan de relance culturelle, qu'annonçait, pardon, par madame. Oui, je n'ai plus parlé. C'est hier que madame, hein, Nathalie Roy, la ministre de la Culture, annonçait son plan de relance culturelle. Je vais la voir, coudonc. Et ça a suscité vraiment l'incompréhension chez les artistes. Moi-même, la première, quand j'écoutais madame Roy s'exprimer au point de presse, où il était beaucoup question de créativité, je pense que ça n'a pas dit 63 fois le mot créativité. Elle ne l'a pas dit pantoute. Et tout ça est resté très flou. On a lancé des gros chiffre, tu sais, 400 millions, ça a l'air énorme, surtout quand on parle de culture. Par ailleurs, des gens ont bien vite chialé en disant « Hey, donné 400 millions en culture, puis pendant ce temps-là, on rouvre pas les restaurants. » Bon, ça, ça a été aussi discuté abondamment, mais quand même, au niveau des gens qui font partie de l'industrie culturelle, beaucoup de questions demeurent sans réponse, et j'en parle avec Alix Dufresne, notre collaboratrice. Bonjour, Alix.
Bonjour.
Écoute, j'espère que tu vas être capable de t'exprimer mieux que moi. La langue me fourchait. Écoute, tu sais, hier, quand j'entendais la ministre Roy, j'avais envie de dire braguer ses gros chiffres. Ben, je vais le dire. Elle braguait ses gros chiffres. Ouais. 400 millions, ça a l'air énorme.
Ouais.
Je me suis empressée de dire à Vincent Dessouroux, avec qui j'analysais le point de presse, que c'était pas tant d'argent que ça et que la culture a besoin d'argent et de plus que 400 millions, et ça depuis des dizaines d'années.
Ben oui, exactement. Puis j'ai l'impression, on le voit avec la pandémie, que la crise fait ressortir des problèmes de fond. T'sais, on l'a vu avec les CHSLD, mais on le voit aussi en culture. T'sais. Puis je pense que mon intervention va aller en deux sens, c'est-à-dire que ça montre à quel point on a un problème de financement en culture, puis on a un problème aussi d'équité dans la façon dont l'argent est réparti. Puis ceux qui en souffrent le plus, là, c'est sans conteste, c'est les artistes puis les artisans. Donc cet argent-là, déjà, c'est pas beaucoup d'argent. En plus, comment il va ruisseler jusqu'aux artistes? On a tous de très, très gros
Ben hier, la ministre disait notamment 91 millions de dollars pour la SODEC. Là, je me disais, en mon fort intérieur, on s'entend, cet argent-là va surtout se voir à la télé, au cinéma, mais il y a tout, il y a plein de pans de disciplines artistiques qui vont être oubliés.
Ça va être surtout les grosses entreprises ou les grosses compagnies qui vont pouvoir mettre la mainmise là-dessus parce que les autres, ils ont encore du fonctionnement, donc encore des gens dans les bureaux pour les aider à frapper cet argent-là puis à faire les demandes. Mais si on parle des arts vivants, parce que moi, dans la vie, tu sais, je suis metteur en scène, donc il y a 50,9 millions de dollars qui sont allés pour les arts vivants.
C'est quoi les arts vivants? Moi, je dis ça partout, là. Explique-moi.
Les arts vivants, c'est qu'il faut que tu y ailles en personne pour le voir. C'est de la danse, c'est de la musique quand c'est live, c'est du théâtre, c'est du cirque, bon, c'est les arts vivants.
Mais ils peuvent faire des captations, ils l'ont dit.
Bon, là, c'est l'autre blague, là. C'est vraiment de dire, ils ont lancé un nouveau programme, puis le nouveau programme pour se réinventer s'appelle, je vais le retrouver là, le titre, là, mais c'est quelque chose par rapport au numérique, là, tu sais. Donc, déjà, on a un problème parce que de dire, ben, les arts vivants, c'est tout sauf numérique. Quand il y a de la vidéo, ça fait partie du spectacle. Le spectacle n'est pas une captation.
Pourquoi le public est important au niveau des arts vivants?
Serge Bellancourt disait, moi là, un show, mettre, prendre 500 000 $ de la poche des contribuables pour faire monter un décor, faire des costumes, puis faire une captation de ça, ça serait voler le monde. Ça n'a pas de bon sens. Les arts vivants, c'est vivant, puis il y a une raison pour laquelle ça existe, c'est que ça fait quand même des milliers d'années oui. que le théâtre existe, et les gens se rassemblent physiquement dans un même lieu pour avoir une prestation en temps réel, dans le moment présent, avec une proximité. Puis ça, ça n'a rien à voir. Puis on le sait tous, une captation de théâtre, c'est poche. C'est jamais bon. Le théâtre, c'est fait pour être...
On salue les beaux dimanches.
Et donc, il y a une affaire qui est vraiment importante par rapport à l'annonce qui a été faite. Il y a trois choses. Il y a juste une très petite part de cet argent-là qui va réellement aller aux artistes. En ce moment, ils nous disent, on vous donne plein d'argent, soyez créatifs. Non, non, ce qu'on fait de notre vie au quotidien pour survivre, on est déjà créatifs, on est déjà en train de se réinventer. Moi, je peux plus entendre, va falloir vous réinventer. C'est ça notre job, c'est de se réinventer au quotidien. Puis essayer d'être
genre juste pour payer ton bill d'hydro, faut que tu te réinventes.
Juste pour payer mon bill d'hydro, faut que je me réinvente. Fait qu'imagine pour créer le spectacle. Et là, on nous dit, proposez des projets. Puis tu fais, attends, excuse-moi. Premièrement, nos spectacles qui étaient là, puis étaient vivants, puis ont été annulés. Qu'en est-il de ça? En mars dernier, on nous a promis, l'UDA et la ministre nous ont promis qu'on serait rémunérés pour les spectacles qui ont été annulés.
Toi, concrètement, tu as eu des tournées d'annulés.
J'avais 32 spectacles. On s'en a joué dans Paradise partout au Québec, à Paris. On revenait faire 2 semaines au 4 sous. Et ces shows-là, on les a répétés. Il y a des costumes qui ont été créés, il y a des décors qui ont été créés, il y a des artisans qui ont travaillé là-dessus, il y a des techniciens et techniciennes qui ont travaillé là-dessus. Personne n'a été payé, là. Puis on sera pas payé. C'est ça qu'on vient d'apprendre aujourd'hui aussi, là, dans le devoir. Ils disent, il semble qu'on sera pas rémunéré pour ça. Moi, j'ai de la misère à payer mon loyer en temps normal, là, parce que la plupart des artistes, là, il faut se le rappeler, Brigitte Anquet, elle le disait dans le devoir, les artistes sont pauvres à la base déjà. Donc, déjà,
ça va être ma question de femme de droite.
Vas-y.
Est-ce que tu es plus riche avec la PCU qu'en temps normal? Mettons, ça te fait-tu un petit break d'avoir la PCU?
Ça dépend, parce que moi, j'ai pas de revenus constants. C'est-à-dire qu'il y a des mois où, je te le dis, mettons Geneviève, au mois de janvier, j'ai, je pense, 1 000 $ qui est rentré dans mon compte en banque, mais le mois d'après, j'en ai beaucoup plus qui est rentré parce que j'ai fait un contrat. Fait
mais
que,
comme beaucoup de travailleurs autonomes.
Exactement, c'est la réalité des travailleurs autonomes, puis non, la PCU, c'est pas assez, puis, tu sais, je veux dire, je fais beaucoup d'argent dans la vie, mais la PCU, c'est pas mal moins que ce que je fais d'habitude.
OK, parce qu'il y en a qui disent que si vous avez tous eu un gros chèque de BS, puis que vous vous plaignez le ventre plein.
Ben non, c'est pas vrai. Premièrement, tu sais, je mets tout le monde au défi de vivre avec 2 000 $ par mois puis d'essayer de créer des spectacles en même temps. C'est
mais faut que tu te réinventes, je pense.
Tu sais, fait que il y a tout ça. Puis on demande aux artistes qui ont été extrêmement précarisés par la crise de devoir se réinventer puis proposer des projets. Hey, on n'a même pas de quoi payer notre loyer en ce moment. Puis en juillet, ça va s'arrêter. Puis en juillet, quand on n'aura plus d'argent, comment on va faire pour s'asseoir avec notre petit papier, notre crayon, de faire « Et si j'inventais un spectacle numérique? » Premièrement, le numérique, c'est pas notre domaine. Deuxièmement, si je sais pas comment payer mon loyer puis payer mon épicerie, comment je vais faire pour inventer un spectacle? En ce moment, ce qu'on a besoin, c'est d'un réel soutien aux artistes pour pallier aux spectacles qui ont été annulés pour lesquels ils devaient être payés, puis se donner le temps de se remettre sur pied puis de créer. Mais on demande encore aux artistes de créer le ventre vide. Donc
mais
là,
attends,
il y a comme quelque chose.
Hier, j'ai craché ma gorgée d'eau quand j'ai entendu la ministre Roy dire qu'il y aurait des sommes imputées pour mieux rémunérer certaines catégories d'artistes, entre autres les écrivains. j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir.
Oui, ça,
j'attends
de
mon
voir,
chèque, ouais, je pense qu'il est dans la malle, je sais pas.
C'est ça. Puis là, on vient d'apprendre, le devoir disait qu'il n'y aura pas de compensation pour les pertes de vente de billets.
Mais c'est ça, puis on parle de rouvrir les salles, mais avec quel spectacle? Qu'est-ce qu'on va montrer aux gens? Moi, c'est ma question.
Ça pourra pas se faire si les salles de spectacle sont pas subventionnées et sont pas soutenues. Mais le théâtre, le 4 sous, par exemple, Olivier Kemed, qui est un des signataires, l'un des 200 signataires de la lettre qu'on a envoyée à la ministre, dit ben moi, je peux réouvrir à 25%, on va en faire de l'art vivant, mais il faut qu'on soit soutenu parce que.
Mais ça
pas
sera
viable.
Pas rentable. Je veux dire, on faisait la déesse des mouches à feu, ça le combe ensemble, puis c'était pas rentable. Je veux dire.
Exactement.
Puis on pourrait questionner pourquoi, là, ça, c'est une autre discussion, mais bon, c'est quand même ça la réalité.
Oui, c'est ça la réalité. Puis souvent, ce qui est subventionné, ça va être les théâtres, ça va être les billets des spectateurs. Le public ne le sait pas, mais le public est subventionné par l'État pour aller voir du théâtre, pour que ça ne coûte pas le réel prix. Qu'est-ce que ça coûte?
Bon, encore une affaire que je paie avec mes taxes et que je savais pas.
Et c'est souvent les artistes qui vont être les derniers subventionnés. Et là, je retrouve l'appel d'offres, Geneviève. L'appel d'offres s'appelle Ambition numérique. Donc,
ah, ça, c'est
le moyen que la ministre nous dit, pour pas crever de faim, les artistes, vous avez plus d'argent, le PCU s'arrête, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez soustraire à un appel d'offres qui s'appelle Ambition numérique. Ah ben là, on est sauvés, je veux dire.
OK, ma question, c'est as-tu des ambitions numériques, ça, Alex Dufresne?
J'ai pensé faire un zoom avec mon chien dans le salon puis utiliser Marc Bellan pour danser en arrière. Là, je suis rendue.
Non, mais je te pose la question sérieusement. Je te disais dans la presse, tu disais que tu avais été approché par une compagnie de théâtre puis tu réfléchissais à la question de la performance versus la distanciation sociale. Tu avais entre autres songé à utiliser des drones.
Ouais, oui, oui, tout à fait. En fait, c'est deux choses différentes parce que la ministre, elle a parlé clairement là, elle sait pas de quoi elle parle là, quand elle parle des arts vivants puis du numérique parce qu'elle parle de captation. Donc, ce qui revient tout le temps, c'est la captation d'un spectacle. Premièrement, un spectacle, faut que tu le fasses pour le capter. Il y a où l'argent pour ça? Deuxième chose, le numérique, c'est pas juste la captation de spectacle. C'est ça, quand je parlais dans la presse, de se réinventer à ce niveau-là, c'était de se dire, ben, il va falloir utiliser d'autres outils. Puis ces outils-là de technologie, ils appartiennent souvent au monde du cinéma. Puis là, je pensais aux drones parce que
mais c'est comme si tout ça était des vases communicants puis que les artistes, ce sont des artistes puis que c'est tout un gros bloc monolithique puis genre, on est avec nos plumes puis nos chapeaux, nos bérets dans nos salons. Moi, c'est ça qui me fait rire, c'est parce que c'est pas toutes les formes d'art qui ont les mêmes besoins, qui ont les mêmes...
Ben oui, puis ça, c'est la preuve que la ministre n'a pas écouté. C'est-à-dire que la semaine passée, on a envoyé une lettre. Il y a 250 signataires qui ont envoyé une lettre avec notamment celui qui est écrit, là, il y a Claude Poisson, Jeanette Noiseau, Lorraine Pintal.
Ils sont tous des gens qui sont actifs dans le milieu du théâtre. Pour ceux qui.
Le Katsu, il dirige le théâtre du CEP, il dirige l'Espace Go. Et cette lettre-là a été envoyée et on n'a jamais eu de réponse. Jamais.
Mais non, vous avez eu 400 millions.
Oui, c'est ça. Mais avant de faire 400 millions, on demandait même pas ça. On demandait, rencontrez-nous, c'est nous les professionnels de ce milieu-là. On sait de quoi on a besoin. On sait comment répartir cet argent-là. On sait de combien on a besoin, puis on sait comment l'utiliser. Et là, ce qu'on dit, c'est chaud de boucan. Voici 400 millions. Roulez-vous dans l'argent et créez des projets numériques avec ça. Ça marche pas comme ça du tout, du tout, du
non, puis nonobstant ça aussi, la réalité de tout ça, là, on parle des plateaux de tournage qui vont reprendre. Je lisais Sébastien Diaz sur Facebook pas plus tard qu'hier qui disait, comment on va faire pour un tournage de 5 jours quand on nous demande de s'isoler 14 jours avant, 14 jours après, ça veut dire que les producteurs vont devoir payer le monde à rien faire. Puis en plus de ça, les acteurs, les actrices qui ont des familles, comment ils vont gérer ça? Donc, à mon sens, là, c'est un méchant panier de crabe, tout ça. Il n'y a rien de clair. Et je sais que 400 millions, ça a l'air gros. C'est rien.
C'est rien.
Quand on sait comment ça coûte tourner un film, comment ça coûte tourner une série, cet argent-là, ça va aller excessivement vite. Il n'y en aura plus. C'est une belle annonce. C'est le fun. Mais j'ai l'impression que, justement, on n'a pas les réponses auxquelles on devrait s'attendre. Puis moi, j'ai envie de te partir sur le commentaire qui revient très, très souvent. On donne 400 millions à l'heure alors qu'on est dans marre dans nos CHS qu'on est dans la merde des hôpitaux, que les restaurants sont pas ouverts. Tu sais, quand t'entends ça, toi, tu sais, qu'est-ce que ça te fait?
J'ai deux réponses à ça. D'un côté,
t'sais, parce que l'art, c'est pas nécessaire. Tu sais, on sent nécessaire au sens nécessité, là. Tu sais,
pas. Oui, on va pas mourir.
On n'a pas besoin, c'est ça. Exact.
Une partie, j'aimerais répondre à ça en disant qu'est-ce que vous avez fait quand vos jobs se sont arrêtés? Qu'est-ce que vous avez écouté? Qu'est-ce que vous avez lu? Puis qu'est-ce que vous avez regardé pendant la pandémie? Je veux dire, l'art était quand même là pour remplir une bonne partie de
mon vie. Ben, c'est assez paradoxal. On n'a jamais eu autant besoin d'art qu'en ce moment.
Exactement. Après, tu dis, OK, mais ça met pas dans mon assiette, puis ça essuie pas les fesses de nos petits vieux dans les CHSLD. Je suis d'accord avec toi. C'est des enveloppes différentes. C'est des budgets
différents. Ça enlève rien.
Ça enlève rien au CHSLD, ça enlève rien à rien. Puis même le Cirque du Soleil, quand on critique le 225 millions qui a été donné, c'est même pas la même enveloppe. Donc, c'est pas une enveloppe artistique, c'est pas une enveloppe, mettons, du Conseil des arts qui aurait reçu cet argent-là, c'était une enveloppe comme avec Bombardier.
Puis en même temps, ce qu'il y a derrière cette idée-là, Alix Dufresne, c'est de dire pourquoi on subventionnerait comme société des formes d'art qui sont non rentables.
Ben ça, c'est un choix de société. Puis si on regarde, mettons, l'Europe, la France qui font ça, ils vont encore plus loin. Ils font une intermittence du spectacle.
C'est mais l'art n'a pas le même statut en Europe qu'ici. C'est pas le même marché.
On n'a pas le même statut, on n'a pas le même nombre de gens. Le public est différent, mais on pourrait l'avoir si on en faisait une préoccupation sociale réelle. C'est-à-dire que si le théâtre était plus accessible, il était mieux subventionné, que les billets étaient moins chers, qu'on arrivait à offrir plus de prestations gratuites, soit dit en passant, il y en a beaucoup, là, des prestations gratuites.
Il y a beaucoup de prestations plates aussi. Excuse-moi.
Oui, mais comme toute chose, je veux dire, il y a du bon théâtre, il y a du mauvais théâtre.
C'est une mauvaise foi, là, je m'excuse.
Ce que je veux dire, c'est que l'argent que les artistes reçoivent, c'est pas de l'argent qu'on enlève dans d'autres secteurs. C'est des enveloppes qui sont différentes.
Donc, pour toi, Alix, en terminant cette annonce-là, est-ce que tu qualifierais que c'est de la poudre aux yeux?
Moi, je dirais que c'est de la poudre aux yeux, puis tout le monde veut une relance de la culture, mais moi, je pense qu'une véritable relance de la culture, elle doit s'accompagner de changements structurels qui permettent plus d'équité puis moins de précarité. Puis c'est ça l'important, c'est penser à la précarité des artistes puis à une structure de fond qu'il faut repenser. Pas juste faire des projets numériques.
Très bien. Merci, Alix Dufresne. On se parlait de ce plan de relance culturelle annoncé hier par la ministre Nathalie Roy.
Les effronter.
Avec Geneviève Pettersen. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez
Les effronter.
Le groupe Reitmans qui a annoncé lundi la fermeture de ses magasins taille plus Addition L. J'en parle avec Edith Bernier, fondatrice du site web grossophobie.ca qu'on a déjà reçu plusieurs fois à l'émission. Bonjour Edith.
Bonjour Geneviève.
Écoute, il y a plusieurs grandes bannières qui vont fermer des suites de la pandémie. On était déjà dans une crise de commerce au détail avant, donc vraiment c'était prévisible. Par contre, la fermeture d'un magasin comme Addition L a créé une véritable onde de choc là, auprès de plusieurs femmes parce que devoir s'approvisionner en vêtements sans l'apport d'Addition L semble être impensable. Est-ce que je me trompe?
Non, en effet, c'est vraiment un feeling d'hécatombe en ce moment là, sur les médias sociaux. Les femmes taille plus sont vraiment super concernées par l'annonce qui a eu lieu hier. Je veux quand même aussi souligner le fait qu'il y a aussi Time maternité qui va fermer. Donc pour les femmes enceintes, ça va être un enjeu qui va être aussi assez important. Mais bon,
je trouve que c'est beaucoup moins pire. C'est drôle là, mais il y a plusieurs façons de s'approvisionner en linge de maternité autre que tu maternité.
Mais en vêtements taille plus, tu as tout à fait raison. C'est vraiment un enjeu majeur. Il y a vraiment une réponse de panique. Et une des plus grandes composantes en ce moment qu'on lit dans les commentaires, c'est le sous-vêtement, particulièrement les soutiens-gorge. C'est vraiment la chose qui revient le plus. Où vais-je m'acheter des soutiens-gorge? Mais tu sais, c'est pas juste ça. Là. C'est les vêtements professionnels, par exemple. On a une entrevue pour un emploi ou une occasion spéciale, un mariage, peu importe. Bon, les mariages, on sait souvent un peu d'avance. Mais les entrevues pour les emplois, des fois, c'est juste 2-3 jours d'avance. Pas 2-3 mois pour avoir le temps de commander quelque chose en 3 grandeurs des États-Unis, de payer les douanes.
Bon, OK, c'est ça ma question. Là.
C'est ça, l'enjeu, entre autres.
OK, parce que moi, comme personne même, j'ai vraiment pas les mêmes difficultés à m'habiller. Là, l'ensemble de l'industrie de la mode m'est adressé. Mais quand tu es une personne grosse dans vie, trouver des vêtements à ta taille, c'est pas facile. C'est ça que je comprends. Puis trouver des vêtements à ta taille qui sont beaux, tu sais, ça, c'est une autre. T'as encore une coche au-dessus, là.
C'est pas rapide non plus, dans le sens que c'est pas rare les personnes qui vont commander le même morceau dans 3-4 grandeurs et espérer qu'ils vont avoir trouvé la bonne dans
le. Mais faut que tu aies l'argent pour mettre ça sur ta carte, en plus, là, 3-4 grandeurs, ça va vite.
Aussi, et déjà que les vêtements, en plus, dans le taille plus, sont déjà plus chers. Mmh. Et si on rajoute à ça le fait que, bon, les femmes grosses sont plus à risque de vivre de la discrimination au niveau professionnel, au niveau de l'avancement professionnel. Donc, elles doivent avoir moins de salaire. Donc là, on commence à combiner plein de facteurs socio-économiques, en fait, qui font que être une femme taille plus et la fermeture d'Addition L, c'était pas nécessairement le magasin le plus abordable, mais c'était pas le pire non plus. Ça va faire vraiment mal et ça va faire qu'on va devoir se rabattre vers les États-Unis en grande partie, mais ça veut dire le taux de change, ça veut dire prévoir 3 semaines à l'avance d'avoir toujours un petit kit plus professionnel ou pour une entrevue ou pour une occasion spéciale. Ça veut dire le taux de change, ça veut dire les factures de douane. Ça veut dire vraiment un gros paquet de troubles, d'inquiétudes, d'investissements financiers. Je veux dire, va falloir être très indulgent dans les prochains mois envers les femmes taille plus parce que ça se peut qu'elles soient bien en moule.
Mais Reitmans quand même qui a indiqué par courriel, Edith Bernier continue à vouloir diversifier puis bonifier l'offre de ses magasins Pennington, là, toujours engagé, du moins c'est ce qu'ils prétendent dans ce courriel, auprès de la mode taille plus. Donc on pourrait penser qu'ils vont continuer à vendre des vêtements grande taille?
Mais c'était déjà limité. Je veux dire, on en avait juste un et il y a eu une grande période où le magasin, la bannière traditionnelle n'existait même pas au centre-ville de Montréal. Et là, ils venaient de rouvrir un magasin au centre-Eton qui va fermer.
Qui va fermer,
C'est vraiment pas évident. Les magasins Pennington sont généralement plus en périphérie et ils n'ont pas le même style non plus.
Donc, c'est laid. C'est ça que tu me dis? C'est-tu qu'étaine? Si ça, on va se le dire. Là.
Ben, c'est peut-être moins jeune, je dirais.
OK, c'est ma tante, je comprends. OK.
C'est plus vieux. Ouais. Mais parce que tu sais, il y a beaucoup d'enjeux aussi en général dans le vêtement taille plus parce que déjà, tu sais, toi par exemple, tu as une silhouette toi tu es sablier, puis l'autre à côté est plus en épaule. Tu sais, déjà chez les tailles qu'on dit standard, c'est compliqué, mais imagine dans les tailles taille plus.
Oui, les vêtements sont pas juste, ils doivent pas juste être faits plus grands, là. Il faut qu'ils soient adaptés.
Non, c'est ça, c'est ça. Et c'est déjà difficile de concilier les silhouettes dans les tailles que l'on dit standards, entre guillemets. Dans les, chez les femmes taille plus, ces différences-là de silhouettes de seins, de fesses, d'épaules, de ventre, de cuisses, sont encore plus accentuées. Donc, c'est encore plus complexe de trouver du beau, de trouver quelque chose qui est bien taillé, de trouver quelque chose qui est abordable. Mais, comme je dis souvent aussi, si tu portes plus qu'une telle grandeur, tu peux pas avoir de conscience. C'est-à-dire qu'on oublie les vêtements, par exemple, qui sont éthiques ou bio. Ou,
ben, il y a des initiatives, mais ça reste...
Ce magasin éthique, pas une option. Ça rajoute encore plus. C'est équitable, etc. Ça existe pas.
Mais c'est moi... Mais
même si on trouve du 3X, on fait le party, là.
Et là, mais OK, ma question quand même, puis ça pourrait s'appliquer à d'autres commerces au détail, la mondialisation quand même a joué, d'après moi, un grand rôle dans la fermeture d'Addison L, parce que il y a plusieurs magasins de fast fashion qui offrent des vêtements taille plus. Est-ce que ces vêtements-là sont convenables? Est-ce qu'on peut penser que la diversité de l'offre, justement, était trop difficile à supporter pour ce magasin-là?
J'ai des gros doutes, en fait, parce que quand on pense, là, on pense, par exemple, à H&M, à H&M.
Mais Joe Fresh aussi.
C'est rare que c'est ça. Mais passer le 2X, 3X...
N'a plus.
Et même Shein, les marques qui sont faites en Asie, des fois, ils vont se dire, il y en a jusqu'à 5X, là, mais quand on regarde les mesures du 5X, c'est à peu près un 2X.
Oui, c'est comme quand on commande des vêtements en taille régulière. Il faut que tu commandes 2-3 tailles au-dessus quand ça vient de l'Asie. Les marques, est-ce qu'ils veulent être associées aux personnes grosses?
Je pense que non. Je pense qu'il y a des marques qui ne veulent pas, en fait. Je pense qu'il y a comme une espèce de sentiment que d'être associé aux personnes grosses, ça diminue le chic, la qualité, le standing d'un brand. Je ne demande pas mieux que de me tromper et j'ai très hâte qu'on me prouve le contraire, mais je pense qu'en effet, on dirait qu'il y a des marques qui ne veulent pas. Puis je comprends pas pourquoi, parce que juste au Québec et au Canada, là, les femmes qu'on peut dire... là. Grosses qui peuvent fitter dans le taille plus, mais on parle d'un 30-35% de femmes au moins.
Ouais.
Donc, je veux dire, qui peut se permettre, il faut vraiment avoir quelque chose d'ancré profond
ben, c'est
pour se mettre à d'autres 30-35% de la population.
Il y a des marques qui n'ont pas peur, comme Maxi qui a fait beaucoup jaser. Il nous reste pas beaucoup de temps, Indice, mais je peux pas m'empêcher de t'en parler. Il nous reste une minute et demie. Martin Matt, la publicité de Maxi, Martin Matt dans son fat suit. Plusieurs, écoute, j'ai fait une chronique dans le Journal de Montréal, puis c'était vraiment pas populaire comme opinion, là, le fait de dire que cette pub-là était grossophobe. Mais ce qui m'a surprise, par contre, c'est les commentaires de personnes grosses qui était quand même en considérable nombre, qui me disait « j'ai pas trouvé ça grossophobe, je suis gros puis ça me dérange pas ».
Mais tu sais, ça se peut hein, être gros puis être grossophobe parce qu'il y a combien de personnes grosses qui disent qu'ils veulent maigrir pour être plus belles?
Ouais, mais vouloir maigrir, est-ce que c'est grossophobe? Je sais pas.
Ben, pour être plus belle, oui. Pour dire qu'être plus mince, c'est être plus belle, oui. Okay. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que quand le Doc Mayo il a dit une semaine ou deux que les grosses femmes allaient y passer à cause de la COVID,
ben oui, hein.
C'est ça qu'il référait. Mais on est vraiment en train de passer en ce moment.
Donc, toi, ce que tu me dis, en fait, c'est que les personnes grosses qui disent que ça les dérange pas, c'est parce qu'ils sont grossophobes? C'est quand même intense.
Ça peut être une forme de grossophobie internalisée parce qu'en fait, je veux dire, c'est accepter de rire de soi.
Oui, bon, mais ça
c'est
passait pas en tout cas.
Et accepter de rire de soi sur un truc et accepter d'être associé en fait à des connotations super négatives, c'est pas mal grossophobe dans mon livre à moi.
Bon, si vous savez pas, vous avez toutes sortes de questions sur la grossophobie, vous pouvez aller visiter grossophobie.ca, info et références. Edith Bernier, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Et j'en profite pour dire que chez Additionnel, on n'est pas les seuls, les Shinestyle et Sportium, qui ont demandé la protection des tribunaux contre leurs créanciers aujourd'hui. C'est tout pour nous. On se retrouve demain. Merci à Frédéric Moccol à la recherche et à Joannie Henry à la mise en onde. Je vous laisse au bon soin de Mario Dumont.
Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit.
Et maintenant, autrement écouté.